Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, on va parler des chefs d'orchestre. Chef, ça s'écrit C-H-E-F-F-E-S. Ça, c'est la 4e symphonie de Beethoven, dirigée par Lucie Leguay. Deuxième épisode de Retour vers le classique, consacré à la place des femmes dans la musique classique après celui sur les compositrices. Dans le prochain, on reviendra à la pop culture à proprement parler, mais cette pop culture met de plus en plus en avant les thèmes féministes et j'ai cherché à savoir si c'était le cas dans la musique classique et c'est un sujet qui me tient à cœur. Dans cette émission, je me suis intéressé à la question de la direction d'orchestre. Le chef, c'est une figure essentielle dans la musique classique. Son rôle consiste à faire jouer ensemble tous les musiciens d'un orchestre pendant le concert et pendant les répétitions, mais c'est aussi lui qui décide de la façon dont il veut interpréter une œuvre, en choisissant un tempo, un rythme plus ou moins rapide, ou en choisissant de mettre l'accent sur tel ou tel instrument. Au XXe siècle, les chefs ont commencé à devenir de véritables stars, avec des figures mythiques comme Herbert von Karajan. Et les femmes, dans tout ça, eh bien, elles se comptent sur les doigts d'une main. Aux États-Unis, on peut citer Emma Roberto Steiner, qui fut compositrice, chef et chercheuse d'or en Alaska. Elle a dirigé le Metropolitan Opera de New York en 1925. Il faudra attendre 1976 pour qu'une femme monte à nouveau sur le podium. Parmi ses pionnières en France, Nadia Boulanger, compositrice et célèbre pédagogue. À partir des années 1910, elle dirige ses compositions. On peut aussi citer Jeanne Évrard en 1930, mais attention, elle dirige un orchestre qu'elle a elle-même constitué 100% féminin, une femme dirigée des hommes, et puis quoi encore? Aujourd'hui, les femmes qui dirigent des orchestres sont toujours très rares et elles doivent toujours faire face aux positions conservatrices de certains hommes du milieu. Quelques-unes ont réussi à s'imposer et à faire carrière, Laurence Equilbet, Claire Gibault, Emmanuel Haïm, Nathalie Stutzmann, Marine Alsop, mais elles ne représentent toujours que 4% des chefs en France, d'après l'étude « Où sont les femmes ?» de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques parue en 2016. Et d'après le site spécialisé Backtrack, il y avait 8 femmes dans le top 100 des chefs programmés dans le monde l'année dernière. 8%, ça peut paraître peu, mais en 2013, il n'y en avait qu'une seule dans ce classement. Quand on regarde les détails, la situation n'est vraiment pas brillante, car le métier de chef peut s'exercer de différentes manières. Il y a les chefs permanents qui sont associés à un orchestre pendant plusieurs années et qui orientent sa programmation. Il y a les chefs assistants qui aident les chefs permanents. Et il y a les chefs invités qui répondent ponctuellement à la demande d'un orchestre. Le nombre de femmes chefs permanentes dans un grand orchestre, aujourd'hui, zéro. À la fin de l'année, il y en aura une puisque Deborah Waldman doit prendre la tête de l'orchestre régional Avignon-Provence en septembre. Comment changer cette situation? Eh bien, des concours réservés aux femmes ont été lancés. La Philharmonie de Paris organise par exemple cette année la première édition du concours La Maestra du 16 au 19 mars. L'objectif, donner un coup de projecteur sur des talents féminins et inspirer les jeunes générations. 12 candidates venues du monde entier âgées d'une trentaine d'années en moyenne et la gagnante sera accompagnée dans sa carrière. En 2018, un premier concours avait été organisé à la Philharmonie, le tremplin Jeune Chef. La gagnante s'appelle Lucie Leguay, elle a 29 ans. J'ai décidé d'aller la rencontrer après une répétition pour qu'elle me raconte ce que ça signifie d'être une femme chef d'orchestre en 2020, pour qu'elle me dise ce que sa victoire au tremplin avait changé pour elle, et puis aussi pour en apprendre plus sur une fonction qui ne consiste pas seulement à faire des gestes avec une baguette en espérant que de la belle musique naisse par magie.
Alors, continuons.
Oh, bien.
Je l'ai rencontré après la répétition du Scarabée d'or, un opéra jeune public qui raconte l'histoire d'une chasse au trésor, une œuvre du compositeur japonais Dai Fujikura, inspirée d'un texte d'Edgar Allan Poe. Lucie est chef assistante sur ce projet de l'Orchestre National d'Île-de-France qui sera notamment donné le 8 avril prochain à la Philharmonie. « En plus de l'Orchestre National d'Île-de-France, Lucie Le Gay est aussi chef assistante de l'Ensemble Intercontemporain, de l'Orchestre de Picardie, de l'Orchestre National de Lille, et elle dirige l'Orchestre de Chambre de Lille, une formation qu'elle a créée. Lille, c'est là où elle a grandi, c'est là où elle a fait ses études de piano et de direction d'orchestre. Pour commencer, je lui ai donc demandé comment elle était devenue chef et si c'était un rêve d'enfant.
Non, mon rêve d'enfant, c'était d'être pilote de chasse. Je pilote, mais autre chose, un orchestre. Mais ça m'est venu parce que j'ai eu deux chocs. À 15 ans, on m'a proposé de jouer dans un orchestre. Et donc, en tant que pianiste, c'était ma première expérience dans un orchestre. Et j'ai ressenti en fait une énergie assez incroyable qui m'a beaucoup plu dans l'orchestre. Et le deuxième choc, ça a été la rencontre de mon premier prof, Jean-Sébastien Béraud.
Comment est-ce que tu définis ce métier de chef d'orchestre ?
C'est un métier pour moi qui permet de faire de la musique de chambre grand format et avant tout du partage parce qu'on joue pas tout seul de l'orchestre. Pour un chef d'orchestre, l'instrument c'est l'orchestre et donc c'est les personnes qui jouent et donc c'est avant tout un partage et un échange avec des musiciens. Et le métier de chef d'orchestre, moi, me permet non seulement de rencontrer beaucoup de personnes différentes, mais dans des pays aussi différents, de voyager et de toucher aussi à un large répertoire qui m'a toujours attirée. C'est aussi la raison pour laquelle je fais ce métier. C'est que le répertoire dans le métier de l'orchestre est extrêmement vaste et intéressant et permet de toucher autant à l'opéra que à tous les styles de musique, classiques, symphoniques, musicals, comédies, voilà, musicales et également musique contemporaine.
Cette idée de partage avec les musiciens, c'est assez intéressant parce que ça tranche avec la figure du chef d'orchestre du XXe siècle, seul sur son podium, qui donne des ordres, etc. Ça me permet d'arriver à la prochaine question. Sur ce projet, le Scarabée d'Or, tu es assistante chef d'orchestre. Les chefs d'orchestre ont une équipe. En quoi ça consiste, ce poste de bras droit, c'est ça, du chef d'orchestre principal ?
Bah oui, c'est un peu la deuxième paire d'oreilles du chef principal. Par exemple, demain, le chef n'est pas là et après-demain non plus. Donc, je suis là pour faire les répétitions, préparer les chanteurs. Parfois aussi, remplacer un chef pendant un concert. Donc, le chef assistant a un métier assez vaste. Non seulement, il donne un petit peu un bilan, un débriefing après chaque répétition, en disant l'avancée des choses, mais aussi, il écoute dans la salle pour les balances. Ça, c'est très important et c'est extrêmement utile pour le chef qui n'a pas la même place puisqu'il est au centre de l'orchestre. Il permet aussi, voilà, de préparer les répétitions, d'aller voir aussi s'il y a des erreurs, travailler avec le bibliothécaire. Et puis le chef assistant, comme je le suis avec l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre de Picardie, l'Orchestre de l'Île de France et l'Ensemble Intercontemporain, l'assistant peut avoir également des concerts souvent pédagogiques. On me propose beaucoup de projets pédagogiques pour les enfants. Et donc voilà, l'assistant, il doit être capable de répondre un peu à beaucoup de choses en même temps. Et c'est extrêmement passionnant parce que ça me permet de développer plein de capacités que j'avais peut-être, mais que voilà, je peux expérimenter dans ce métier.
Ce projet-là, le Scarabée d'Or, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots ?
L'histoire, en fait, c'est avec 5 personnages principaux et ils sont à la recherche, en fait, d'une carte au trésor. Il y a aussi des histoires de famille, mais il y a au côté aussi très enfants. On va jouer ce spectacle un peu partout en Île-de-France. Et donc, voilà, la musique, tous les soirs, là, depuis une semaine, je me rappelle le Scarabée d'Or, ça rentre. Et donc, c'est des mélodies assez jolies, il y a des très belles couleurs, c'est assez épuré également. Et c'est très intense parce que voilà, c'est quand même un langage contemporain. C'est redoutable pour les chanteurs d'apprendre tout ça par cœur. C'est presque 1h20 d'opéra sans pause. Donc voilà, mais je suis hyper contente de faire ce projet avec eux.
En plus de spectacles pour le jeune public, Lucie a participé à plusieurs événements qui correspondent tout à fait à la ligne éditoriale de Retour vers le classique. Elle a organisé un concert baptisé Sorcier Sorcière dans lequel elle a dirigé L'apprenti sorcier de Paul Ducasse et la musique d'Harry Potter. Elle a accompagné aussi l'artiste électro Wax Taylor dans des concerts symphoniques. Je lui ai demandé pourquoi ses liens avec la pop culture étaient importants pour elle.
Moi, j'aime un petit peu casser les codes et ouvrir la musique à tout le monde. Et je m'intéresse à toutes les musiques parce que pour moi, toutes les musiques sont intéressantes. Il n'y a pas de sous-musique. Et à chaque fois que j'ai des expériences comme ça, ça me nourrit. Et ça me donne des idées aussi pour les prochains projets parce que maintenant, je trouve que le rôle d'un chef d'orchestre dans la musique classique, c'est de mélanger un petit peu les styles. Je vois bien avec l'Orchestre National de Lille où on peut proposer une symphonie de Beethoven avec des rappeurs ou des danseurs hip-hop. Donc, c'est intéressant. Après, voilà, avec beaucoup de goût et de finesse parce qu'il faut respecter aussi, voilà, la musique classique. Mais c'est vrai que le projet que j'ai fait, Sorcier Sorcière, où il y avait à la fois l'apprenti sorcier, Harry Potter, et puis Dvorak, et puis d'autres pièces, et il y avait des animations par au-dessus. Pour les enfants, c'était assez agréable, et puis ça racontait tout un univers. Moi, ça me demandait d'être très réactif par rapport à l'image, parce que c'était pas exactement un ciné-concert topé, donc j'étais pas non plus complètement libre, mais c'est un challenge, comme je l'ai fait avec Wax Taylor, où j'étais pas non plus libre, puisque je devais être sur sa musique. Toutes ces expériences me permettent aussi de rencontrer des nouveaux artistes, très différents du milieu de la musique classique, et c'est intéressant de faire des ponts, et d'offrir ça au public, et aussi de proposer à un nouveau public, que ça soit pas seulement toujours les mêmes qui viennent au concert, mais de dire que voilà, la musique classique, elle peut faire miroir avec plein d'autres styles.
J'ai ensuite demandé à Lucie si le fait d'être une femme lui avait posé des problèmes dans son apprentissage du métier.
Ça a posé de gros problèmes d'être une femme. Non, je plaisante. Le problème, c'est quand je suis arrivée dans la classe et que j'ai vu que j'étais la seule femme de la classe de direction d'orchestre quand j'avais 18 ans. Puis j'ai vu maintenant l'évolution parce que, par exemple, quand j'étais à la Haute École de Musique de Lausanne avec Aurélien Zantininski, j'étais la seule femme pendant les deux premières années de master. Et à ma troisième année de master, puisque c'était en 3 ans, il y a eu une autre femme qui est rentrée dans la classe. Donc je me suis dit, tiens, ça commence quand même à se développer. Et depuis que je suis partie de cette école, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc je trouve que depuis 2 ans, il y a une énorme différence et une accélération par rapport à cela, parce qu'on donne maintenant plus l'opportunité aux femmes.
Est-ce que le fait d'être une femme dans ta pratique, ça a posé problème? Parce qu'il y a une époque quand même où les premières femmes qui ont essayé de diriger un orchestre, les hommes ne voulaient pas se laisser faire, elles devaient diriger des orchestres de femmes.
Ça m'est arrivé une fois quand même, la seule fois, où un musicien s'est mis en arrêt maladie, avant de me rencontrer, avant de rencontrer le projet, malheureusement, parce qu'il ne pouvait pas accepter qu'une femme chef d'orchestre le dirige. Donc là, ça m'a vraiment surpris parce que ça m'était jamais arrivé. Je sais bien que quand on est un jeune chef devant un orchestre professionnel, on est jugé, encore plus quand on est une femme. Mais comme je le dis souvent, à partir du moment où on fait bien son travail, l'orchestre oublie le genre et s'occupe plutôt à l'artiste et au musicien et oublie voilà ce détail. Et puis après, c'est un détail aussi que je ne mets pas de côté. C'est-à-dire que je ne m'interdis pas d'être féminine et je ne me dis pas, tiens, je fais un métier d'homme, donc il faut que je ressemble à un homme. J'en ai rien à faire, entre guillemets, de ça. Ça n'a pas d'importance pour moi. Mais oui, je sais que souvent, il y a un peu une inquiétude, un regard un peu différent, surtout avec la génération qui a connu beaucoup, beaucoup d'hommes. Et je pense que dans les écoles, si on commence à voir beaucoup de femmes chefs d'orchestre dirigées, déjà, ça va changer la vision et le point de vue des musiciens qui apprennent dans les écoles, qui sont les musiciens futurs dans les orchestres professionnels. Donc ça se passe dès l'école et l'éducation musicale des musiciens. Et voilà, comme je l'ai dit, à partir du moment où on fait bien son travail, on ne voit pas la différence. Mais oui, j'ai pu sentir parfois des petites réticences. Il y a quand même une grande avancée là-dessus et on accepte quand même de plus en plus cela. Ce qu'on accepte moins, c'est quand elles sont incompétentes et qu'on leur donne du pouvoir. Mais en même temps, il y a beaucoup d'hommes aussi qui peuvent être incompétents à certains postes et on ne leur veut pas plus que ça. Donc c'est vrai que ce qui est difficile pour une femme, c'est qu'elle n'a pas l'impression qu'elle a le droit à l'erreur. Elle doit être parfaite. Et donc, je me rends bien compte qu'on veut tout le temps être très très prête. La moindre erreur dans un orchestre ne va pas, ou l'homme, ou le musicien, ou même les femmes ne vont peut-être attendre la moindre faute pour pouvoir nous sauter dessus, nous dire « Ah bah voilà, elle n'est pas compétente ». Mais en même temps, on a le droit de faire autant d'erreurs que les hommes, on reste des êtres humains. Il ne faut pas oublier qu'on apprend aussi sur le terrain ce métier. La part d'erreur, elle est pour tout le monde.
À quoi est-ce que tu lis cette évolution et qu'est-ce qui pourrait être fait pour justement améliorer la situation et atteindre, pourquoi pas un jour, une parité dans les chiffres de direction d'orchestre?
La parité, je ne sais pas vraiment comment on peut y arriver, parce qu'après, on ne va pas forcer les femmes à faire un métier qu'elles n'ont pas envie de faire. Si on demande, j'ai rencontré par exemple une pilote de chasse pour une conférence que j'ai donnée sur le métier de chef d'entreprise et chef d'orchestre et le côté manager. Et je vois bien à quel point il n'y a pas énormément de femmes non plus qui s'inscrivent en tant que pilote de chasse. Donc, on ne va pas forcer les femmes à faire ce métier. Si elles sont attirées, tant mieux. Ce qui est important, c'est de donner cette image à des jeunes filles, moi qui viennent, je travaille avec l'orchestre Demos par exemple, donc ils ont l'image d'Alexandre Bloch qui est un homme et d'une femme, et donc de donner l'exemple là-dessus. Mais pour la parité, on verra bien. Après, ce qui est important en tout cas, c'est de leur donner la possibilité. Et j'ai rencontré des femmes chefs d'orchestre d'une 50aine d'années qui m'ont dit, quelle chance vous avez aujourd'hui de faire partie de cette génération qui est mise en avant, qui est écoutée, qui est désirée, et il faut en profiter. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'être née dans ces années de changement. Et je le vois bien aussi dans tous les autres milieux, dans le sport, dans la politique, évidemment. Et je me sens, oui, chanceuse de faire partie de cette génération qu'on écoute.
Ça, c'est Vajrayana, l'œuvre de la compositrice Camille Pépin que Lucie a joué au tremplin de la Philharmonie fin 2018. Ce tremplin jeune chef est devenu un concours cette année, la Maestra. Lucie n'y participe pas, mais je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ces compétitions réservées aux femmes.
Je prends ça avec des pincettes parce que j'ai toujours peur aussi qu'on nous mette dans des cases en disant voilà, elle a gagné un concours de femmes, donc elle n'est pas légitime de diriger des hommes parce que c'était un truc entre femmes. Au début, j'étais contre parce que je me suis dit pourquoi que des femmes chefs d'orchestre? Moi, si je veux faire des concours et avoir la parité, il faut que je participe avec des hommes aussi. Et puis finalement, quand j'ai vu que ça allait donner beaucoup de visibilité parce que c'était surtout une rencontre avec beaucoup de directeurs d'orchestre en France, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion et ça s'est bien passé. Puis ça m'a ouvert des portes. Le tremplin m'a permis quoi, en fait, d'avancer dans ma carrière. Maintenant, j'ai beaucoup de travail entre les quatre orchestres avec lesquels je travaille, plus les autres qui m'invitent. Donc, ça marche. Et aujourd'hui, je vois à quel point il y a beaucoup de femmes et de collègues féminines qui se révèlent, que je vois faire de très belles carrières. Donc, je suis ravie de voir cela. Mais attention à ne pas non plus tomber dans l'effet inverse et de délaisser des très bons chefs hommes qui ont autant de mal que nous à trouver une place dans ce métier qui est très sélectif. Après, la Maestra, c'est aussi une super opportunité pour des femmes qui sont aussi plus avancées dans la direction d'orchestre. Je vois bien les profils qui sont recherchés. Ce ne sont pas des jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui ont 1 ou 2 ans d'expérience. C'est des femmes qui ont déjà une belle carrière internationale. Et c'est pour leur permettre aussi de suivre des masterclass. Mais il y a aussi beaucoup de partenariats avec des orchestres à l'étranger. Donc, c'est pour leur donner la possibilité de diriger à l'étranger des orchestres et d'avoir une visibilité, mais à un autre niveau. Je suis un peu triste aussi pour mes collègues masculins avec qui j'en parle beaucoup et qui me disent « Voilà, moi, j'ai pas de chance, j'ai le même âge que toi, mais je suis un homme, donc comment je peux faire ?» Il va pas mettre une perruque et une robe pour pouvoir diriger. C'est problématique, je trouve, d'avoir cette discrimination positive. Et en même temps, c'est très bien, mais de ne pas tomber dans l'excès. Il y a eu un autre concours où la maison Cartier était partenaire et il y avait un trophée Cartier qui était donné à la fin. Je trouvais ça très bizarre. On parle de musique classique, on ne donne pas une Ferrari à la fin à un chef d'orchestre qui vient de remporter un concours. Ça montrait en fait l'effet inverse. On veut la parité, on ne veut plus parler d'hommes ou de femmes, on veut un chef ou une chef d'orchestre. Et donc attention à cela, de ne pas tout mélanger. Il faudrait retrouver un équilibre un petit peu là-dedans. Et ça prendra peut-être des années parce qu'évidemment, pour faire un bond en avant, il faut un peu forcer un peu partout pour retrouver après un juste milieu, et donc c'est pas évident. Alors peut-être qu'il faut passer par là, mais moi je pense avec des pincettes, il faut faire attention à ça.
Tu disais justement, pour résumer la situation, un chef d'orchestre, ça n'a pas de genre.
Oui, c'est une phrase qui m'a marquée, que j'ai entendue quand j'avais 18 ans. Mon prof Jean-Sébastien Béraud, qui lui a enseigné depuis 60 ans la direction d'orchestre, donc il a connu beaucoup de générations et d'époques différentes. Et je me rappellerai toujours, après mon premier cours de direction d'orchestre, en plus moi je suis gauchère, donc il fallait que je m'occupe de plein d'autres choses, il m'a dit « Bon Lucie, si un jour vous voulez faire le métier de chef d'orchestre, restez le plus simple possible, simple mais au niveau de beaucoup de choses, même au niveau vestimentaire ». Il est aussi de cette génération qui portait des uniformes. Il me parlait de ses vêtements en 3 pièces, avec le bouton fermé jusqu'ici, même s'il faisait très très chaud. Les musiciens ne s'habillaient pas de la même manière qu'à notre époque. Et donc, ce côté vieille école, je le comprends aussi également, parce que voilà, le chef d'orchestre est au service de la musique et doit presque effacer parfois sa personnalité pour laisser place au compositeur et à la musique. Et d'un autre côté, Jean-Sébastien Béraud, qui est aussi un homme de théâtre, m'expliquait qu'il fallait incarner aussi le personnage et la musique, mais pas à travers, évidemment, des vêtements. Et je vois parfois des femmes chefs d'orchestre, avec, mais même des hommes, avec, par exemple, les cheveux qui passent par au-dessus, il faudrait une barrette ou j'en sais rien. Ce qu'il faut, c'est ne pas déranger le musicien qui a besoin de nous voir d'une manière la plus simple possible pour comprendre nos gestes. Mais c'est autant pour un homme que pour une femme. Et donc voilà, il parlait du fait qu'un chef d'orchestre n'a pas de genre, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est un chef avant tout, avec une idée musicale, une interprétation qu'il a envie de délivrer aux musiciens. Et j'ai vu aussi une évolution par rapport au chef d'orchestre, d'être beaucoup plus à l'écoute. On parlait tout à l'heure des chefs d'orchestre au début du XXe siècle, qui étaient très autoritaires, presque dictateurs. On entend encore Toscanini hurler sur ses musiciens, et aucun musicien répondre en face. On entend le silence de la peur. Aujourd'hui, évidemment, on n'en est plus là du tout. Et c'est tellement plus agréable de faire de la musique ensemble et d'échanger, même pendant la pause ou pendant les répétitions, et d'avoir l'avis des musiciens qui sont quand même les premiers concernés, puisque ce sont les interprètes.
Est-ce que, dans les choix des pièces que tu vas diriger, est-ce que tu mets l'accent sur les femmes compositrices dont je parlais dans le dernier épisode ?
J'ai beaucoup aimé travailler, par exemple, avec Camille Pépin. Et Je suis contente un petit peu de fouiller un peu plus dans le répertoire des compositrices parce que je le connaissais peu et je découvre beaucoup de compositrices très intéressantes et je suis beaucoup contactée par rapport à l'orchestre que j'ai créé, L'Ociel, et les orchestres que je dirige aussi, par des compositrices qui me disent « voilà, j'aime beaucoup votre travail, etc. J'aimerais vous présenter des pièces » et grâce à la société aujourd'hui qui va très vite, on a la possibilité de faire des connexions et de les mettre en avant. C'est un répertoire qu'il faut défendre, qu'il faut rendre visible et faire découvrir au public. Moi, j'ai la chance, avec l'Orchestre de Picardie, de présenter souvent les concerts d'Harry Van Beck. À chaque concert, il y a une femme compositrice qui est mise en avant. Et évidemment, comme à chaque fois, il y a une nouvelle compositrice, c'est le plaisir pour moi d'en parler au public, parce que c'est aussi ça le rôle du chef d'orchestre aujourd'hui, de faire de la médiation avec les publics et d'expliquer les œuvres avant un concert pour donner des clés d'écoute et la rendre accessible.
Dans cet esprit de médiation et d'explication, Lucie a accepté d'être suivie pendant plusieurs mois par la vidéaste Camille Dusselier. Ça a donné une web-série qui s'appelle Chef, CHEF.MEDIANFE. 5 épisodes d'une petite dizaine de minutes, c'est disponible sur la chaîne YouTube de la Philharmonie. C'est très beau, ça permet d'en apprendre plus sur ce métier de chef d'orchestre. On suit Lucie dans ses voyages et dans ses répétitions.
Ok. It's good, but it's not my tempo. Ta 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 ta. Pa 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 pa. Again? And one.
Quand on m'a proposé ce projet suite au tremplin, j'étais très enthousiaste et en même temps, je voulais savoir comment ça allait se passer. Camille Dusselier a réussi à montrer la diversité de ce métier. Donc, elle a su donner des éclairages comme ça différents et aussi des clés d'écoute et de compréhension par rapport à notre métier où j'explique un petit peu comment est la partition. Et donc, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas musiciens qui m'ont dit « Ah, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce format-là. En 6-7 minutes, j'ai compris mieux quel était ton métier, quelle était ta vision, quelles sont les étapes d'un chef d'orchestre. » Parce que le chef d'orchestre, on le voit seulement au concert, donc quand le travail est terminé. Mais quand on peut voir évidemment un chef d'orchestre en répétition, on voit à quel point le travail est important, on voit l'évolution du travail et aussi on a vu quand je travaillais par exemple à la table et comment voilà, je prépare le répertoire, comment je l'analyse. Pour moi, c'était une chance de pouvoir donner un éclairage, une vision sur mon métier de chef d'orchestre qui est très vaste.
Merci.
Merci à toi.
On termine avec le tombeau de Couperin, une pièce de Maurice Ravel. Lucie dirigeait l'ensemble Les Siècles en novembre dernier, un an après sa victoire au tremplin. Pour résumer cet épisode, le métier de chef d'orchestre se féminise malgré l'opposition de certains dans le milieu de la musique classique. Cette féminisation se fait parce qu'il y a quelques pionnières qui ont montré que c'était possible et qui ont servi de modèle à des femmes qui, aujourd'hui, à leur tour, peuvent inspirer les plus jeunes. Elle se fait aussi grâce à la discrimination positive des événements réservés aux femmes qui leur permettent d'être mises en avant et d'obtenir des postes. La question de la féminisation de la musique classique est très vaste, il y aurait encore beaucoup à dire. Par exemple, sur les instrumentistes, une immense majorité des solistes sont des hommes. Si ça vous intéresse, je pourrais aborder à nouveau le sujet dans le futur, mais dans le prochain épisode, retour en plein cœur de la pop culture, on va parler du rap. C'était Retour vers le classique, merci d'avoir écouté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur radioclassique.fr. Vous retrouverez les morceaux que je vous ai fait écouter en intégralité sur l'article dédié à cet épisode. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes habituelles de podcast. À bientôt.